des mollahs et les exécutions spectaculaires. Le désœuvrement de la jeunesse était tel que rien ne pouvait les empêcher de chercher la consolation dans la drogue, la fête et la fornication, comme le dit Sarah dans l'introduction de sa thèse. Faugier examinait tout ce désespoir en spécialiste, en entomologiste de l'accablement, se livrant lui aussi aux excès les plus formidables, dans une sorte de contagion de son objet d'étude, rongé par une tristesse galopante, une tuberculose de l'âme qu'il soignait, comme le professeur Laennec ses poumons, par des quantités formidables de stupéfiants. Ma première pipe d'opium me rapprochait de Novalis, de Berlioz, de Nietzsche, de Tracle. J'entrais dans le cercle fermé de ceux qui avaient goûté au fabuleux nectar que servit Hélène à Télémaque pour qu'il oublie un moment sa tristesse. Alors Hélène, fille de Zeus, eut une autre pensée, et aussitôt, elle versa dans le vin qu'il buvait un baume, le népenthès, qui donne l'oubli des mots. Celui qui aurait bu ce mélange ne pourrait plus répandre de larmes de tout un jour, même si sa mère et son père étaient morts, même si on tuait devant lui par l'airain son frère ou son fils bien-aimé, et s'il le voyait de ses yeux. Et la fille de Zeus possédait cette liqueur excellente que lui avait donnée Polydamna, femme de Tos, en Égypte, terre fertile qui produit beaucoup de baumes, les uns salutaires et les autres mortels. Là, tous les médecins sont les plus habiles d'entre les hommes, ils sont de la race de Païon. Et il est bien vrai que l'opium chassait tout chagrin, toute peine, morale ou physique, et guérissait temporairement les maux les plus secrets, jusqu'au sentiment même du temps. L'opium induit un flottement, ouvre une parenthèse dans la conscience, parenthèse intérieure, où l'on a l'impression de toucher à l'éternité, d'avoir vaincu la finitude de l'être et la mélancolie. Télémaque profite de deux ivresses, celle que lui provoque la contemplation du visage d'Hélène et la puissance du népenthès. Et moi-même, une fois en Iran, en fumant seul avec Sarah, alors qu'elle n'avait aucune passion pour les drogues douces ou dures, j'ai eu la chance d'être caressé par sa beauté. Lorsque la fumée grise vidait mon esprit de tout désir de possession, de toute angoisse, de toute solitude. Je la voyais réellement, et elle resplendissait de lune. L'opium ne déréglait pas les sens, il les rendait objectifs. Il faisait disparaître le sujet, et ce n'est pas la moindre des contradictions de ce stupéfiant mystique que de, tout en exacerbant la conscience et les sensations, nous tirer de nous-mêmes et nous projeter dans le grand calme de l'universel. Faugier m'avait prévenu qu'un des nombreux alcaloïdes qui composent l'opium possède un pouvoir vomitif et que les premières expériences opiacées peuvent s'accompagner de violentes nausées, ce qui ne fut pas mon cas. Le seul effet secondaire, à part d'étranges rêves érotiques dans des harems de légende, fut une saine constipation. Autre avantage du pavot pour le voyageur, toujours sujet à des dérèglements intestinaux plus ou moins chroniques, et qui compte, avec les vers et autres amibes, parmi les compagnons de route de ceux qui parcourent l'Orient éternel, même s'ils en font rarement état dans leurs souvenirs. Pourquoi l'opium a-t-il aujourd'hui disparu de la pharmacopée européenne, je l'ignore. J'ai bien fait rire mon médecin quand je lui ai demandé de m'en prescrire. Il sait pourtant que je suis un malade sérieux, un bon patient, et que je n'en abuserai pas, si tant est que l'on puisse, et c'est le danger bien évidemment, ne pas abuser de cette panacée. Mais Faugier m'assurait, pour dissiper mes dernières craintes, qu'on ne développait pas de dépendance en fumant une ou deux pipes par semaine. Je revois ses gestes. Alors qu'il préparait le bain-four, dont le fourneau de terre cuite avait été chauffé au milieu des braises, il découpait la pâte noire et durcie en petits morceaux qu'il ramollissait en les approchant de la chaleur du foyer, avant de se saisir de la pipe tiède.